Quoique ce qu'il a, ici Alexandre Liquado avec mon collègue André Dudemel. Cette semaine, nous avons Widget La Rivière pour couvrir l'épisode 113, qui est, en fait, je pense qu'on va plus parler de ce que tu fais ces temps-ci, mais en même temps, je pense qu'on pourrait peut-être en parler aussi, mettons, de la semaine de vérité et réconciliation, parce que j'imagine que tu vas être très occupé de ton côté. Et tu sais, André pourrait aussi parler des. Mais enfin, je pense que je t'ai envoyé des liens que tu pourrais en discuter avec Woodia, là. Mais je sais pas si Woodia devrait s'introduire parce qu'il est quand même venu à l'épisode 30 il y a comme 2 ans de ça. Peut-être dire quelques mots un peu.
Oui, certainement. Kwe Kakina Ginawa, je m'appelle Woodia La Rivière. Je suis Anishinaabekwe de par ma mère, puis québécoise de par mon père. Puis ça fait plusieurs années que je m'implique dans la mobilisation pour le respect des droits des peuples autochtones et des droits humains en général. Je suis notamment la cofondatrice et directrice générale de MICANA, qui est un organisme autochtone sans but lucratif qui fait de la sensibilisation sur les réalités et perspectives des peuples autochtones. J'ai cofondé ça avec Mélanie Lomzen, une autre femme autochtone engagée aussi. Puis sinon, dans le passé, j'ai travaillé chez Femmes autochtones du Québec pendant près de 10 ans. Donc, je suis quand même beaucoup touchée et sensibilisée par les réalités aussi qui touchent plus spécifiquement les femmes autochtones, les féminismes autochtones, en tout cas, peu importe comment qu'on veut nommer ça. Puis je suis également impliquée dans le milieu du cinéma, notamment j'ai comme mentor Kima Bomzawin. Donc je travaille sur des projets cinéma avec elle qui mettent de l'avant les voix, les expertises des premiers peuples. Puis c'est ça, je suis maman aussi d'une fille de 5 ans. Qui s'appelle Maïdé. Donc voilà.
Ben, d'abord, bonjour, bienvenue sur Rue Adadegen, le
Merci.
podcast hebdomadaire de Terres en vue. Alors, on est très content on recommence après la période de repos post-festival. Hein, on a eu Présence autochtone qui est
Ouais.
une belle édition cette année. On est très content. Et là, maintenant, on remet le pied à l'étrier. Et donc, déjà, tu es sur notre conseil d'administration. Donc, tu fais partie de la
Oui,
famille.
j'aurais dû le mentionner aussi.
Alors, donc, effectivement, on se sent déjà très en familiarité et en amitié avec toi. Alors, c'est plaisant de commencer là-dessus. Et je voudrais peut-être que tu nous dises, parce que ton engagement à la fois est, comment dire, je dirais à 3 niveaux, hein, un peu comme moi, on partage ça, on vient d'un couple mixte, hein, autochtone, non autochtone, donc notre engagement est déjà une affirmation identitaire. On aurait pu, j'imagine, toi, comme moi, démissionner comme autochtone. C'est l'expression que Richard Kistabich avait employée une fois. Il dit, moi, j'ai déjà essayé de démissionner, mais juste chercher un loyer à Val-d'Or, ça me plaisait. Je
Ouais.
pouvais pas, effectivement. Mais on a choisi, au contraire, de saisir à bras-le-corps cet héritage. Donc, il y a là quelque chose, un engagement où on devient ce qu'on est, hein, dans la vie. Et il y a aussi des choix qui marquent à la longue et qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Ensuite, tu as un engagement au niveau institutionnel en t'impliquant dans les organisations autochtones. Un engagement aussi, alors donc, Femmes autochtones, tu as mentionné, tu as créé MICANA aussi, un organisme de sensibilisation et d'éducation aux réalités autochtones. Puis finalement, un engagement vraiment militant, parce que Idle No More, c'était pas juste un job, là, c'était du travail d'ouvrage.
Ouais, c'était un
Voilà.
engagement citoyen non payé,
Voilà. Et j'aimerais ça que au niveau de ces triples engagements-là, on est en 2023, il y a la journée réconciliation qui s'en vient, tout ça. comment tu vois le cheminement de la cause autochtone, toi personnellement, au travers tout ton parcours là, qui maintenant est impressionnant et qui est, comment dire, il y aurait déjà plusieurs chapitres de biographie à écrire là-dessus.
Mon Dieu! Ben, merci! C'est sûr que ben, si je pars de très plus loin, là, tu sais, quand moi je suis une enfant des années 90, là, j'ai grandi dans cette période-là, puis c'était la période post ce qu'on appelle la crise d'Oka ou ce que je préfère appeler la résistance de Kanizatake. Puis c'était vraiment une période où que c'était pas cool être autochtone. Puis une époque où est-ce qu'il y avait énormément de préjugés, là, tu sais, assez clair, là, tu sais, comme pas subtil du tout. Donc, c'est sûr que si je me compare, là, tu sais, à cette époque-là, tu sais, c'est sûr qu'il y a énormément, là, d'avancements et d'accomplissements, tu sais, qui ont été faits, puis même depuis une dizaine d'années, donc je dirais même quand j'étais impliquée dans le mouvement « I don't know more », c'était une période où est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui me disaient « t'es la première personne autochtone que je rencontre, wow! » Tu sais, puis c'est ça, j'étais juste comme « my God, il y a tellement encore ce fossé ou ce mur invisible là, tu sais, qui existe entre les mondes autochtones et allochtones, ça n'a aucun bon sens. » Puis des gens, c'est ça, qui voulaient nous appuyer puis qui savaient pas comment faire puis tout ça. Fait que ça a comme été un rappel. Je suis comme, OK, il y a encore vraiment beaucoup d'ignorance et de méconnaissance. Mais je sens quand même que là, mettons, comparé à plus tôt dans ma vie, il y a vraiment comme plus d'ouverture puis de désir de vouloir, de la part des allochtones, là, d'être des alliés puis de vouloir appuyer les causes autochtones de plus en plus, tu sais. Puis je pense que, par exemple, c'était pas juste à cause de... Ben oui, je pense que I don't know more a aidé, mais il y avait aussi la période de la commission de vérité et réconciliation aussi à cette époque-là. Puis là, ça s'est en suivi de d'autres commissions d'enquête sur différents sujets, comme la commission Vient ou l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Fait qu'aujourd'hui, je pense que en termes de... Bon, les allochtones qui sont sensibilisés sur les causes autochtones, il n'y a plus vraiment comme d'excuses là, pour dire « Ah, je connais rien, puis j'ai jamais entendu parler de vous. » Fait que, tu sais, ben, en tout cas, du moins, en termes de sensibilisation, d'éducation, je pense qu'il y a quand même énormément de chemin qui a été fait depuis que moi, je suis enfant. Et même depuis que je suis impliquée, là, par exemple, que j'étais impliquée dans « I don't know more ». Ceci dit, il reste encore vraiment beaucoup de travail à faire. Fait que je pense que c'est important de reconnaître les accomplissements et les avancements qui ont été faits, mais aussi de reconnaître qu'il y a encore énormément de travail à faire. Puis je trouve qu'un défi qui est un peu plus particulier à ces temps-ci, c'est que, bon, tu sais, par exemple, dans les années 90, ou tu sais, quand on rencontre des gens qui disent des préjugés très explicites, tu sais, c'est comme assez facile à bon, dénoncer ou à identifier. Alors qu'aujourd'hui, il y a comme un aspect des fois un peu plus subtil à ça. Et même des gens qui ont les meilleures intentions du monde, qui ont l'air quand même bon, de maîtriser certaines notions de base sur les réalités autochtones, mais qui n'ont pas nécessairement comme des savoir-être ou des savoir-faire sur comment approcher les Autochtones, comment travailler avec les Autochtones, comment aborder ces questions-là. Fait en même temps, je le vois quand même comme une évolution parce qu'avant, c'était tout simplement comme de l'ignorance pure et aucune action. Mais là, on est comme quand même un peu plus avancé, mais avec des défis qui viennent quand même avec ces avancements-là.
Je pensais à ça. Je pense que de notre côté aussi, un peu la culpabilité qu'on fait face aussi. Là. Il y a du monde qui on dit que des fois, dans l'approche que je marque certaines, c'est sûr qu'il y a des avancements, mais on dirait aussi que c'est aussi motivé par la culpabilité de devoir réparer quelque chose.
Mm. Ouais. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, Alexandre, mais chez Mikana, on travaille sur un atelier qui s'appelle la pédagogie de l'inconfort. Souvent, quand je présente tout ce qu'on appelle la réconciliation, décolonisation, ou peu importe comment on veut appeler ça, c'est comme une espèce de thérapie sociétale, collective. Parce que, oui, tu sais, il y a quand même l'importance de connaître les 11 nations, puis bon, sur quel territoire on se trouve, puis le nom des communautés, etc. Mais au-delà de ces connaissances-là, il y a comme aussi, en tout cas dans la pédagogie, l'inconfort. On a réalisé qu'effectivement, de la part des Allochtones, il existe énormément d'inconfort par rapport à leur relation avec le milieu autochtone ou les personnes autochtones. Puis parmi les inconforts, ben, tu l'as nommé, Alexandre, il y a la culpabilité coloniale qui malheureusement aussi peut mener à des blocages justement par rapport à prendre action pour nous appuyer justement dans nos causes ou le respect de nos droits. D'autres types d'inconfort, il y a ben, l'indifférence ou se sentir agacé, tu sais, des gens qui sont tannés d'entendre parler de nous. Il y a aussi la peur de faire des erreurs. Fait que, encore une fois, on a rencontré des gens qui ont tellement peur de faire des erreurs qu'ils font rien. Fait que c'est ça qu'on a réalisé, c'est pour ça que j'appelle ça comme une espèce de thérapie collective, c'est que oui, on veut sensibiliser sur connaître la non-dénomination, les communautés, nos réalités, mais il y a comme un aspect un peu plus profond à tout ça si on veut un réel changement puis dans les comportements, les attitudes, puis les actions de la part des Allochtones pour nous appuyer.
Oui, moi je dis souvent que réconciliation, d'abord, j'aime pas beaucoup le mot parce que souvent, pour les gens, réconciliation, on s'est disputé hier, on est bons copains, puis là, bon, on va les prendre un pot, on va se réconcilier. Ouais. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué sur le plan sociétal. Mais je dis, on est tous, peu importe qu'on soit de nos origines, on est tous des héritiers d'une histoire tragique. Et on doit d'abord se réconcilier avec notre propre histoire. Hein. C'est quelque chose qui est majeur. Et effectivement, l'inconfort peut être un blocage, peut être aussi un bon signe. Parce que si quelqu'un n'a pas d'inconfort par rapport à ce qui est l'espace socio-ethno-économique qui s'appelle Canada, aujourd'hui, il y a un plus grave problème. Je pense qu'il faut effectivement, comme société, être capable de vivre son propre inconfort, justement de le dépasser en avançant. Et c'est là, effectivement, que les actions, comme là, j'aime ça, psychologie de l'inconfort, c'est bon, ça, comme titre. Parce que déjà, ça nomme la chose. Ouais. Et nommer les choses, c'est déjà un premier pas pour avancer. Hein. C'est comme racisme systémique. Le gouvernement ne donne rien de le reconnaître. Oui, ça donne quelque chose parce qu'une fois qu'on a nommé la bête, on est capable de l'apprivoiser, de la dépasser, de la transformer. Bref, d'aller plus loin. Et c'est dans ce sens-là que les actions qui sont menées par différents organismes à différents niveaux, dont Mikana, sont particulièrement importants. Et le changement, récemment, là, j'étais à Douarnenez en Bretagne, où ils ont fait un spécial autochtone à leur festival de films. C'était fantastique, il y avait plein de monde qui était là, dont Kim Obomsawin, qu'on connaît bien. Et j'étais avec Kim sur une table ronde, il y avait une journaliste française qui, à un moment donné, était un peu fatigante. À un moment donné, elle nous dit « Mais quand même, les choses ont évolué positivement, vous devez le reconnaître. » Je lui ai répondu « Non. Les choses, ce ne sont pas les choses qui ont évolué positivement. » C'est notre militantisme, notre engagement, notre créativité, nos porte-paroles, nos organisations qui ont fait que des changements sont arrivés. Alors, ce n'est pas les choses dans l'abstraction, dans ce sens-là. Effectivement, les choses peuvent mieux aller pour nous, mais nous y sommes aussi beaucoup pour quelque chose, en tout cas du moins quand on travaille dans des organisations comme Mykona.
Oui, c'est, je l'ai entendu souvent aussi, là, tu sais, ben là, tu sais, vous devriez être content, là, ça change, puis je suis un peu mitigée par rapport à... C'est vrai, tu sais, je suis comme, bon, je veux pas être négative, puis je veux reconnaître les accomplissements, mais c'est juste comme, c'est tellement encore difficile, c'est tellement encore beaucoup de travail, comme, même juste être une personne autochtone, même pas impliquée, là, tu sais, par défaut, tu sais, c'est, ça vient tellement avec un bagage, puis comme tu disais tantôt, on est encore en train de nous-mêmes guérir, puis se réconcilier avec notre héritage, ben, ça, tu l'avais en lien avec l'histoire de... la colonisation, etc. Fait que c'est comme... Puis tu sais, c'est pas un cadeau. Tu sais, des fois, les gens... Tu sais, je me rappelle quand il y avait la commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues assassinées. Puis là, je me faisais appeler pour des entrevues, puis des commentaires. Puis t'es comme, ouais, tu dois être contente, là, qu'il y ait une enquête. Puis j'étais comme... Je sais pas si c'est contente, là. J'ai juste... C'est comme... C'est pas un cadeau, tu sais. C'est comme la base qu'on demande, tu sais, de justice. Puis je sais même pas si je peux décrire que... Je suis contente, tu sais, je sais pas, fait que moi aussi, je suis un peu mitigée des fois avec ce commentaire-là, puis je le vois aussi peut-être comme, tu sais, tantôt tu disais, oui, c'est vrai que c'est important de nommer les inconforts, puis moi je dis tout le temps que c'est normal, il faut les normaliser, les nommer justement pour les surmonter, mais j'ai l'impression des fois ces commentaires-là, c'est un espèce de mécanisme de défense, tu sais, pour se déculpabiliser, voire même se déresponsabiliser, comme... par rapport à tout cet héritage colonial. Mais c'est ça qu'on essaie aussi un peu de faire chez Mykona, c'est de sensibiliser aussi sur la responsabilité collective, tu sais, de faire quelque chose, tu sais, c'est pas juste à nous. Tu sais, nous, on fait tellement les autochtones depuis, en termes de résistance puis de mobilisation, tu sais, depuis le début de la colonisation, au moins. Puis, c'est ça, c'est aussi... tout ce que, peu importe qu'on appelle ça, réconciliation, décolonisation, autochtonisation, réparation, ça doit être fait aussi, là, ça doit venir du côté des allochtones aussi, avec bon, les autochtones comme étant plus des guides, tu sais, pour guider vers où est-ce que ça s'en va, mais l'action puis le travail, bien sûr, ben, c'est comme, c'est les allochtones aussi, c'est qui doivent le faire.
Je pensais à ça quand tu disais, genre, quand tu parlais de l'inconfort, puis ça m'est venu à l'esprit que même nous, en tant qu'Autochtones, on a grandi dans l'inconfort parce qu'on doit sortir de notre monde, aller en ville, puis là, on vit juste dans un endroit où est-ce qu'on connaît pas. Fait que parler français, apprendre de nouvelles façons, la politesse, mettons, par exemple, comment interagir avec les gens en ville, c'est pas la même chose qu'on fait à Manoan. Ou dans une autre communauté. Mais reste que on a grandi dans cet inconfort-là, nous autres, puis là, on peut se complaire là-dedans. Puis ce que je remarque, c'est que pour qu'il y ait du changement, mais on a besoin d'inconfort. Puis c'est ça que je vois beaucoup, c'est que les gens, ils ont peur de cet inconfort-là pour faire quelque chose. Mais il faudrait juste qu'on normalise ça, puis que c'est un, comme un passage, en fait, obligé pour qu'on puisse, mettons, s'améliorer, là.
Oui, tout à fait. Puis effectivement, en tant qu'Autochtone, on en a vécu aussi d'autres types d'inconfort et carrément aussi des situations de discrimination, d'injustice. Puis à mes yeux, ben c'est ça. Si ça peut, si on peut faire des parallèles puis essayer de sensibiliser les Autochtones aussi à ça par rapport à ce qu'ils vivent, là. Mais... il y a un atelier qu'on... Ben, tu l'as déjà animé, Alexandre, mais on a un atelier qui s'appelle le Cercle de la boîte chez Mykona. C'est un espèce de jeu de rôle où est-ce qu'on fait... où est-ce que les participants... c'est comme s'ils étaient dans une société autochtone précoloniale. Et il y a comme une narration comment c'était, puis ensuite l'histoire de la colonisation, puis là, comment que la colonisation a affecté des sociétés autochtones. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle le cercle, la boîte, parce que ça commence en cercle et ça finit en boîte pour représenter un peu la manière occidentale de fonctionner. Puis le fait que ce soit comme... Ça ressemble un peu à l'exercice des couvertures, pour ceux qui connaissent ça. Puis le fait que ça passe aussi par l'expérience et l'émotion, Souvent, ça a plus d'impact pour sensibiliser les Allochtones, pour comprendre ce qu'on a vécu en tant que peuple autochtone, que des fois, que par exemple, présenter un PowerPoint avec des photos ou des statistiques. Là. Fait que des fois aussi, c'est ça passé par pas juste le cérébral là, pour sensibiliser les gens. J'ai réalisé que c'est ça. Souvent, passer par les émotions, même sans vouloir avoir l'air New Age ou tout ça, mais juste passer par les émotions puis l'expérience aussi, là, c'est. En tout cas, nous, on a réalisé que c'était quand même une approche assez puissante en termes de sensibilisation.
Oui. Il y a des choses qui évoluent aussi. Hier, j'ai assisté à la première du dernier film de Denis Arcand, Testament.
Ah oui?
Oui, alors je ne suis pas 100% convaincu, loin de là, pour le film. Mais quand même, dedans, on entend la langue Mohawk, tiens donc, et c'est Alex Rice. Et oui. C'est drôle parce que Denise Robert, après, on rencontre les journalistes, on a découvert Alex Rice. Ouais, c'est comme découvrir le nouveau monde. Hein? C'est Alex Rice, ça fait longtemps qu'elle est découverte. Elle a joué, il y a un film qu'on a présenté en 2002 à Présence autochtone qui s'appelait quelque chose comme Bad Blood, quelque chose comme ça. Je vais peut-être l'acheter ici. Et elle jouait là-dedans. Ah, c'était The Doughboy, c'est ça, The Doughboy. Et elle était toute jeune, elle jouait là-dedans. Elle a joué dans Rustic Oracle. On a présenté les formats de 70 mm, Lewis and Clark, The Great Journey West, où elle jouait le rôle de Sacagawea. Bref, encore une fois, fallait être un peu débranché pour, et c'était vrai de tous les maudits journalistes qui sont là, qui ne viennent pas présenter sur Autochtone, qui sont supposés des spécialistes du cinéma, qui sont tous là, Alex Rice, c'est une comédie de moi. Et mon Dieu, bon, ça de vous sortir, bande de cons. C'est la fille qui a eu des rôles importants que tout le monde dans le milieu autochtone connaît et reconnaît comme actrice. Et là, tout d'un coup, vous êtes toutes là, vous promenez. Ça m'a... À la fois, j'étais content parce que je me dis, bon, ben enfin, oui, c'est heureux que le grand bonze et le pape qui trône sur le cinéma québécois adoube de sa grâce le talent d'Alex Rice. Mais je trouve que ça vient tard. Hein?
Ouais.
Mais c'est là. Alors, il y a un petit pas. Et ouais. Je me dis, ben, c'est toujours des brèches qui sont ouvertes. Parce que c'est drôle, encore une fois, Arcand disait, moi, j'ai eu une blonde Mohawk quand j'avais 20 ans, j'ai joué à la crosse et on rencontrait les Mohawks, donc pour moi, c'était naturel de le faire. Mais si c'était si naturel, pourquoi il ne l'a pas fait avant? Parce que c'est dans son, je ne sais plus trop, 20e film, 20e long métrage que ça arrive, je me dis, il y a quand même eu... effectivement, des gens qui ont fait que les choses ont évolué. Et donc, il y a quand même des éléments positifs qui ont été amenés avec le temps. Et je serais curieux, Mikana, maintenant, je pense que vous avez beaucoup, beaucoup de demandes. Hein, demander des... c'est quand même un signe. Hein?
Ouais.
Alors, ce que vous donnez, c'est des ateliers, hein? si je ne me trompe pas, tu me corrigeras. C'est des ateliers de sensibilisation et vous vous déplacez avec des Autochtones et il y a une démarche songée pour que les gens plongent l'espace de cet atelier dans des réalités autochtones et en sortent avec une meilleure compréhension. Est-ce que c'est un portrait juste là que je fais?
Oui, ben oui, c'est en fait c'est un des trucs quand même principal là, qu'on fait. Puis, tu sais, souvent les gens disent ah, Mikana est victime de son succès, mais je suis comme on n'est pas vraiment victime de notre succès, on est plus victime du contexte sociétal de prise de conscience soudaine. Là, parce que là, c'est vrai, comme il y a tellement de milieux en même temps là, qui veulent être former puis sensibiliser sur les réalités autochtones. Puis même, tu sais, il y a une approche un peu checklist. Ah oui, notre équipe, on veut se former, puis après, on passe à autre chose. Mais fait qu'il y a vraiment un phénomène en ce moment. Puis tu sais, je veux dire, c'est sûr que Mikana, nous, on a été créés pour justement répondre un peu à ce contexte-là, parce qu'on savait que ça s'en venait. Là, c'était la période de vérité et réconciliation. Puis là, dans les appels à l'action, ça disait éducation, sensibilisation. Fait que c'est un peu comme notre contribution là, t'sais, pour lutter contre le racisme et la discrimination à travers l'éducation. Puis oui, parmi les activités qu'on fait, il y a notamment les activités de sensibilisation comme les ateliers, les formations qui sont animées par des jeunes ambassadeurs, donc des jeunes autochtones de différentes nations. C'est sûr qu'on réfléchit là, aux différentes approches là, à utiliser parce que c'est ça. Notre but, c'est d'avoir l'impact puis de changer, avoir de l'impact à différents niveaux, que ce soit les individus en termes d'attitude puis de comportement, que de sensibiliser des personnes clés dans des institutions, des organismes qui peuvent entraîner des changements significatifs dans leur milieu. Mais on fait aussi autre chose. On a trois champs d'action. Puis, c'est sûr qu'on a le volet éducation, sensibilisation, on a le volet aussi empowerment des jeunes, parce que, par exemple, les jeunes autochtones qui animent nos ateliers, on veut pas juste prendre d'eux, mais on veut aussi leur redonner, notamment avec un programme, là, puis des ressources, des activités pour eux, parce que, bon, c'est animer des ateliers sur les réalités autochtones, c'est pas comme si on animait un atelier sur comment faire du chocolat, ou en tout cas, un truc vraiment. C'est comme, tu sais, on parle quand même de nos traumas collectifs, intergénérationnels, on parle de racisme systémique, puis ça peut créer des réactions chez les participants, fait que c'est pas toujours facile. Fait qu'on a besoin de temps aussi, tu sais, pour ventiler, puis se ressourcer. Puis là, tu sais, comme justement le 30 septembre, qui est la journée nationale de réconciliation. Cette année, on a décidé qu'on allait organiser une cérémonie, une activité de guérison, tu sais, avec les jeunes ambassadeurs, au lieu de comme dire « oui, on va faire une activité de sensibilisation, on va profiter ». Fait qu'il y a comme cet élément-là aussi qui vient teinter nos réflexions, nos approches chez Mikana. Tu sais, on pense au public à l'automne, comment mieux les sensibiliser, mais on pense aussi aux personnes autochtones qui sont impliquées dans des activités de sensibilisation pour s'assurer que c'est ça, qu'ils soient bien aussi, parce que des fois, on peut se sentir seul, on peut se sentir pas bien, tu sais, après avoir animé une conférence, un atelier, le moindrement qu'il y a eu la résistance ou des micro-agressions, des commentaires racistes là, de la part du public, ça peut rapidement devenir assez difficile. Puis le troisième champ d'action, c'est changement systémique et durable. Parce qu'à un moment donné, il y a comme une fatigue aussi à tout le temps aller animer des ateliers partout. Puis des fois, on avait l'impression de s'éparpiller, puis on n'était pas toujours certain des impacts que ça pouvait avoir. Fait qu'on développe aussi des partenariats avec des milieux, tu sais, là, qui sont formés, qui connaissent les notions de base, qui continuent leur parcours d'éducation puis de sensibilisation, puis qui sont prêts à entamer des changements dans leur milieu en termes de respect des droits des peuples autochtones. Puis ça, c'est tellement plus valorisant comme travail parce qu'on voit vraiment des impacts significatifs. Puis si je peux prendre un exemple d'un de ces partenariats-là, c'est le Collège Antique qu'on accompagne dans leur démarche d'autochtonisation depuis 2018. Fait que juste pour montrer aussi là, que c'est des partenariats quand même là, sur plusieurs années. On crée des relations durables. Puis là, ben, c'est ça. Depuis le début du partenariat, ben, maintenant, il y a une personne autochtone qui est embauchée pour justement le programme local d'accueil des étudiants autochtones. On accompagne les professeurs qui veulent décoloniser leur plan de cours. Puis on veut que ça devienne un modèle aussi pour d'autres professeurs au collégial à travers le Québec. Fait que c'est ça. Fait que ça fait partie des différents trucs qu'on fait chez Mikana, puis c'est pour ça qu'on est une OBNL aussi, puis qu'on est plusieurs personnes impliquées, parce que, tu sais, j'aurais pu partir, par exemple, juste une business, moi toute seule, à donner des conférences, puis tu sais, mais c'était pas vraiment comme la vision qu'on avait, moi, puis Mélanie Lumsden, qui est l'autre cofondatrice de Mikana. On voulait que ça devienne un mouvement collectif, puis que ça soit aussi, que ça reflète aussi le milieu autochtone. C'est que ce soit aussi rapporté par nous-mêmes, en fait. Ce qui est présenté aussi dans les ateliers puis les formations, parce qu'on a tellement assisté à des ateliers, des conférences aussi, par des spécialistes allochtones, des peuples autochtones, ou, tu sais, même à l'adolescence, à l'université, j'avais participé à une conférence par un anthropologue, tu sais, qui était allé chez les Anishinaabe, tout ça, puis je trouvais ça tellement comme ironique d'en apprendre plus sur ma culture à travers cette conférence-là. Fait que c'est ça, fait qu'on veut aussi shifter un peu cette idée de souveraineté narrative à travers, justement, impliquer, que ce soit des Autochtones qui décident ce qu'ils ont envie de dire dans les ateliers et de la manière aussi de le dire.
Je vois le temps qui passe et je sais que tu as un autre engagement.
C'est à 13h30,
effectivement. Ah bon, donc on a encore un peu de temps avec toi, bravo. Alors, alors, comment tu vois toi cette initiative? On avait déjà le 21 juin, Jour national des peuples autochtones, puis maintenant on a cette journée de la réconciliation. Alors, comment tu vois un peu cette... nouvelle date dédiée aux peuples autochtones et comment ça peut, ou non, tu l'as abordé brièvement, s'insérer dans les agendas des organisations qui sont déjà souvent fort, fort chargées.
Oui. Je suis tout le temps comme un peu mitigée par rapport à ça, parce que je le sais que c'est une bonne chose que maintenant, tu sais, la journée, même la semaine de la réconciliation, parce que c'est comme, ben, tu sais, ça, en termes de communication puis de visibilité, tu sais, ça touche des gens qui, naturellement, peut-être, n'auraient pas nécessairement le réflexe de s'intéresser ou, en tout cas, de s'informer sur l'histoire coloniale ou sur nos réalités. En même temps, je trouve que des fois, le piège avec ces journées-là, c'est que des fois, il y a des gens, on dirait qu'ils veulent réduire comme les questions autochtones à ces journées-là, comme par exemple le 21 juin ou surtout le 30 septembre, alors que nous, on dit « ben c'est très bien que vous pensez à ces journées-là, mais il y a aussi tout le reste de l'année, puis c'est tout aussi pertinent aussi le reste de l'année ». Et surtout aussi, je trouve, le 30 septembre, c'est peut-être un peu différent du 21 juin, parce que le 21 juin, tu sais, effectivement, là, peut-être qu'on est plus, tu sais, dans une approche ou une perspective de célébration, alors que le 30 septembre, c'est vraiment plus, tu sais, si on connaît l'historique, là, de pourquoi ça a été créé. Oh, mon Dieu, excusez-moi, mon tableau est tombé à l'arrière.
Alors là, il y a un fantôme qui n'est pas content, là.
Non, ce c'est que ça. Tu dis. Oh. Oh my God. OK. Fait que, qu'est-ce que je suis en train de dire? En plus, je l'ai vu ce matin qui commençait à craquer.
Bon. Oui, oui, oui. Alors, tu en étais à dire, effectivement, que si tu comparais le 21 juin, qui est quand même un ton de célébration, alors que, et là, tu allais aborder justement le 30 septembre.
Oui, effectivement, que le 30 septembre, c'est plus une période de commémoration puis de recueillement, tu sais, parce que ça peut s'être créé justement, en fait, ça vient, tu sais, d'une femme autochtone, là, l'initiative de cette journée-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, oui, c'est le gouvernement fédéral, tout ça, mais non, c'est depuis 2013, avant même que le gouvernement fédéral choisisse d'en faire une journée là, nationale, et il y a une femme autochtone, pardon, dont j'ai oublié le nom, là, mais qui, c'est elle qui est à l'initiative de la journée de la réconciliation, puis la journée du chandail orange, justement, puis en lien avec sa propre expérience au pensionnat. Puis le chandail orange, parce que c'est quand elle est allée au pensionnat, elle avait un chandail orange, puis elle se l'est fait enlever. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose d'assez... c'est ça. En lien avec les pensionnats, tu sais, les traumas des pensionnats. Puis c'est comme plus une période où est-ce que, qui est axée justement sur l'histoire coloniale, puis le régime des pensionnats, puis les impacts que ça a eu. Fait que, tu sais, pour le milieu autochtone, puis en plus au Québec, juste pour comme mentionner aussi, là, ça tombe en même temps que la semaine qu'on souligne le décès de Joyce Echaquan, tu sais, fait que ça rajoute comme une couche en termes de recueillement puis de commémoration. Puis c'est pas nécessairement comme un moment festif, tu sais, parce que, tu sais, chez Mikana, par exemple, on a eu... des demandes, là. Oui, on aimerait ça faire un dîner de panique, pour la journée de réconciliation. Puis, je vois vraiment plus cette journée-là comme, ben si on organise un événement de sensibilisation, il faut vraiment que ça touche les questions, qui sont à l'origine même de la création de cette journée-là, par respect au moins par la femme, tu sais, qui a initié cette journée-là. Puis, en même temps, ben c'est ça, dans le milieu autochtone, vu que ça peut être une semaine difficile, tu sais, comme, ben nous, par exemple, chez Mikana, on a décidé que cette semaine-là, finalement, c'était une semaine réservée de plus en plus pour le recueillement puis la guérison. Fait que d'où l'idée, justement, le 30 septembre, d'aller en cérémonie entre nous que d'organiser un événement de sensibilisation. Fait que c'est pour ça que je suis tout le temps un peu mitigée, parce que des fois, j'ai l'impression que la réconciliation, il y a comme un aspect spectacle aussi que je suis pas toujours à l'aise, parce que c'est pas nécessairement comme un moment de spectacle, la journée ou la semaine de réconciliation, mais c'est ça, un moment de réflexion, de recueillement, commémoration, tu sais. Je suis pas mal certaine qu'il y a d'autres tragédies ou des événements vécus par d'autres peuples que, tu sais, on se sentirait pas à l'aise de leur proposer faire un potluck ou, tu sais, une activité festive, tu sais, alors que c'est un moment, tu sais, traumatisant ou pour leur peuple. Fait que c'est ça. C'est un peu comme, encore une fois, les raisons pourquoi je suis tout le temps mitigée avec cette semaine-là. Parce que souvent, on se fait dire, ben là, profitez-en du momentum, là, les gens s'intéressent à ça, vous devriez profiter de cette semaine-là pour, tu sais, accepter toutes les demandes, puis aller sensibiliser différents publics. Un peu comme si, tu sais, on était la saveur du mois, puis qu'après, les gens s'intéresseraient plus à nous. Fait que c'est pour ça que mais, tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut, tu sais, annuler cette journée-là, puis qu'elle devrait pas exister. C'est plus par rapport à l'approche, justement, comme aux alentours de cette journée-là. Puis, si on organise des activités de sensibilisation, c'est quoi l'approche, tu sais, qui serait plus appropriée pour cette semaine-là? Nous, en tant qu'Autochtones, qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire cette semaine-là? Puis là, je vais pas parler au nom de toutes les Autochtones, tu sais. Moi, j'ai une certaine fatigue, là, depuis... I don't know more, parce que j'ai l'impression de tout le temps répéter souvent plein de choses auprès du public à l'automne. Je sais qu'il y a des gens, tu sais, qui aiment ça, puis qui acceptent aussi de donner des conférences, des ateliers, d'accorder des entrevues aux médias pendant cette semaine-là. Mais, tu sais, je dis tout le temps aussi aux autres personnes autochtones engagées de pas ressentir non plus cette pression de performance-là. Tu sais, comme, si vous acceptez des choses cette semaine-là, faites-le parce que vous avez l'énergie, puis que vous en avez envie, puis que ça vous allume. Mais sentez-vous pas obligé pour la cause, puis parce que vous voulez profiter du momentum, ce que moi, j'ai déjà fait dans le passé. Parce que, ben, c'est ça. Ça peut être aussi tout simplement une période où est-ce qu'on se repose, puis qu'on se recueille, ou qu'on va participer à une cérémonie de guérison, ou qu'on fait juste se reposer. Tu sais, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la performance. Puis, tu sais, j'avais même vu des gens en panique parce qu'ils n'avaient pas réussi à avoir un chandail orange, tu sais, pour le 30 septembre. Puis, je trouvais ça un peu absurde, de toute cette pression-là aussi de performance, ou en tout cas, je ne sais pas trop comment le nommer. Fait que c'est ça. Fait que il y a certains, tu sais, je suis contente que cette journée-là existe, puis je suis contente que cette semaine-là existe. Je suis juste en réflexion par rapport à l'approche de certaines activités, puis sur qu'est-ce qu'on fait aussi cette semaine-là.
Je vois aussi qu'il y a comme une conjoncture à cette semaine-là. Regarde, si on regarde, mettons, la commission vient, ils ont déposé le rapport de la commission vient le 30 septembre 2019.
Oui.
Je sais pas s'il y a une corrélation, il y a comme un lien avec ça, mais on dirait que tout se passe dans cette semaine-là, où est-ce qu'on parle des Autochtones.
Oui, c'est au Québec, effectivement. C'est comme une semaine encore plus chargée. Ouais. Fait, c'est pour ça que je trouve que, tu sais, comme le jeudi, il va y avoir des vigiles pour Jess et Chacoan, tout ça. C'est... Puis c'est en lien direct avec ce qui ressort de du rapport de la commission Vient. La commission Vient qui était le rapport sur les relations entre les Autochtones et les services publics au Québec. Fait, c'est ça. T'sais, moi, j'en profiterais, je suis comme, OK, vous voulez parler des Autochtones cette semaine? On va dire les vraies choses. T'sais. On va parler de racisme systémique, on va parler de colonisation, puis il y a encore des pratiques coloniales qui existent encore aujourd'hui dans les institutions, puis de racisme, de discrimination. Justement, vu que c'est comme en lien direct avec pourquoi ça existe, la journée de la réconciliation, puis aussi les autres événements qui ont lieu cette semaine-là.
J'ai vu qu'ils veulent instaurer un férié pour cette journée-là au Canada, mais il me semble que le Québec, ça n'a pas passé.
Ah, pour le 30 septembre, ouais, effectivement, je pense qu'ici, il l'a pas au Québec. En tout cas, je sais que dans certains organismes autochtones, nous, on a décidé nous-mêmes que c'était un férié. C'est pas juste pour les travailleurs du gouvernement fédéral, mais c'est comme nous, chez Mikano, on a congé cette journée-là, ou en tout cas, la journée avant ou après, ça tombe la fin de semaine. Mais c'est ça, que ce soit une journée fériée ou non, j'espère du moins que ça devienne une journée de réflexion pour les personnes autochtones, puis une journée de recueillement pour les milieux autochtones.
J'ai vu qu'à l'Université de Sherbrooke, ils ont instauré un férié le vendredi.
Ah, OK.
Pour la Journée nationale de la vérité et réconciliation.
OK. C'est ça. Fait que des fois, c'est plus comme des initiatives locales. Là. C'est pas nécessairement... C'est ça. Mais c'est sûr qu'en ce moment, avec le gouvernement actuel... au Québec, là, qui justement ne reconnaît pas le racisme systémique. En tout cas, c'est pas toujours facile, justement, à ce niveau-là. Mais si jamais, comme je peux conseiller aussi des organismes autochtones à suivre et appuyer, il y a le bureau du principe de Joyce là, qui existe depuis... En tout cas, c'est assez récent. Puis qui, justement, milite pour qu'il y ait des meilleures conditions puis respect des droits des peuples autochtones puis la sécurisation culturelle dans les services de santé au Québec. Fait que c'est que, à ce niveau-là, ils sont quand même assez mobilisés puis ils ont besoin de beaucoup d'appui de la part de la population à ce niveau-là. Mais... Ouais. Puis, j'ai comme un flashback, là, l'année passée. Est-ce que ça se peut que la reine soit décédée, en plus, comme, dans cette période-là? C'est comme... Puis, j'ai comme un flashback.
C'est pas la date.
Le 8 septembre qui est décédée.
Ah, c'est le 8 septembre. Mais je pense que c'est une journée que les Atikameks essayaient de... Tu me corriges, en fait, Alexandre, mais il me semble qu'il n'y a pas quelque chose avec le 8 septembre pour que ça devienne comme une journée pour l'autodétermination à Tikamek, puis que là, la reine a commencé ce jour-là. Puis...
Oui, ça me dit quelque chose. Je me rappelle qu'il y avait comme... on voulait commémorer un événement, puis finalement, ça a été... on a juste parlé de la reine, finalement, toute la journée à ce moment-là.
OK. Hi, Jackie. Oui, c'était quand même ironique.
Oui, une autre journée, le 21 juin, ça vient aussi d'une initiative autochtone. Hein, c'est dans l'après-guerre, là, les chefs historiques, là, William Commanda, puis les autres autour de lui avaient demandé ça, que le 21 juin soit une journée dédiée en l'honneur là, de cette. Donc, déjà, il y avait dans leur perspective un côté d'affirmation culturel et festif pour les peuples autochtones, pour les Premières Nations, tout le moins. Et nous, Terres en Paix, on a été les premiers, hein, surtout dans, comme tu l'as souligné, dans l'après-Oka, à organiser des choses le 21 juin. Et à l'époque, c'était pas à la mode, là, c'était dur de faire venir les journalistes parce que leur chef de pupitre leur disait pas « Oh, c'est le 21 juin, ça nous prend un topo autochtone aujourd'hui. »
Ouais.
Et une journée, on était en train de préparer le 21 juin et juste l'avant-veille, Pierre Bourgault est décédé. Puis le 21 juin, c'était ses funérailles. Alors, il n'y avait plus de journalistes. Tous les journalistes étaient aux funérailles de Pierre Bourgault. Le 21 juin était oublié et enterré lui aussi.
Oh my God.
J'ai retrouvé ce que tu parlais. C'est la journée de la souveraineté Atikamekw.
Ah, c'est ça.
C'est dans le fond, quand le grand chef Constant Ouachiche est rentré, là, il avait comme fait une déclaration de souveraineté Atikamekw. Fait qu'ils ont instauré, la Nation Atikamekw a instauré cette journée-là comme étant journée de la souveraineté Atikamekw. Fait qu'il y avait des activités, mais finalement, c'est la reine était morte à ce moment-là.
Ouais, c'est ça, je me souviens. Merci d'avoir retrouvé l'information. Ouais, mais c'est ça.
Remarque, c'est peut-être un bon signe pour la souveraineté Atikamekw si la reine meurt cette journée-là.
On va peut-être l'ajouter un petit paragraphe genre à côté. Genre. Il le décès de la reine.
Oui, alors, puisque le temps avance avec le podcast, moi, je pourrais vous suggérer des choses pour cette journée de recueillement. Il y a, si vous voulez, et ça peut se faire devant votre écran télé, il y a toute une série de films sur tout.tv qui ont été programmés suite au dernier festival Présence autochtone. Alors donc, il y en a deux ouais, que je recommanderais particulièrement pour être vu. Il y a un pont au-dessus de l'océan. C'est fort touchant. C'est les échanges entre les Osages des États-Unis et l'Occitanie dans le sud de la France. Alors, une chose que j'ai appris en voyant le film, c'est que depuis le 19e siècle, il y a des échanges entre la ville de Montauban et la communauté Osage en Oklahoma. Et les Osage, bientôt, on va les avoir sur nos écrans parce qu'en octobre ou novembre, on va sortir The Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese. Hein, et ça, c'est l'histoire récente des Osage qui est présente dans ce film, dans le film de Martin Scorsese. Et il a beaucoup collaboré avec la communauté. Et dans un pont au-dessus de l'océan, le chef de la communauté parle justement des liens qu'ils ont eus avec l'équipe de tournage. Mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a tout un recueillement au travers des poètes et des écrivains qui se rencontrent des deux côtés de l'Atlantique. Parce qu'on sait que au moment des guerres de religion, il y a eu des grands massacres dans le sud de la France. D'ailleurs, c'était la première des croisades qui était, aujourd'hui on appellerait ça un génocide sans doute, hein, où des villes entières, des habitants ont été tués, brûlés, en pays cathare. Et la poète Osage qui visite ces lieux-là est elle-même touchée, elle sent très bien, elle voit tout de suite une relation avec les traumas qui ont été historiques, qui ont été ceux des Autochtones d'Amérique et particulièrement ceux des États-Unis où la question du génocide on se demandait pas si c'était culturel ou non, c'était un génocide tout court. Mm-hmm. Alors donc, c'est un film très touchant et justement qui est tout en recueillement, qui n'est pas du tout en affirmation militante, tonitruante, mais tout en douceur, au travers beaucoup de la parole de femmes, justement, qui sont des artistes, des poètes, et ça n'a rien de surfait, c'est tout à fait, le ton est tout le temps juste. Alors, je recommande beaucoup qu'on voit ce film. Également, un autre qui s'appelle Mama, et là aussi, ça touche la question de la femme. C'est Shun-Seru qui est le réalisateur, est un Tsotil, donc du Mexique. Et il fait ce film sur sa mère et avec sa mère. Et on voit comment, justement, le machisme mexicain a pénétré jusque dans les sociétés autochtones et comment ça a créé des situations difficiles pour les femmes autochtones qu'elles doivent surmonter. Et donc, lui-même, c'est intéressant, parce que quand il a présenté le film à Montréal au mois d'août, le réalisateur a dit « c'est pas un film féministe ». Il dit comme « mal, je peux pas dire que moi, je peux faire un film féministe, mais je peux faire un film anti-patriarcal ». Et donc, effectivement, là aussi, il y a beaucoup de pertinence, de tendresse et d'histoire très concrète d'une femme auquel, évidemment, le réalisateur est très intimement lié, sa mère. Donc, il y a ce dialogue mère-fils et ce portrait de femme autochtone qui, là aussi, est très juste. C'est quelqu'un de très touchant qui surmonte, justement, toute une série de traumas, certains plus anciens, certains plus récent dans son histoire personnelle, pour aller de l'avant et s'affirmer comme femme dans son milieu. Et c'est vraiment, là aussi, le ton est très juste et c'est vraiment un beau documentaire à voir, donc que je recommande. Et puis, en même temps, Tout.tv ont mis d'autres films dans cette sélection, avec notre accord, notamment Rumble hein, sur la musique autochtone, Blood Quantum en version française, le dernier film du regretté Jeff Bernabé, ouais. Je m'appelle Humain, qui est un portrait de Joséphine Bacon.
C'est touchant, ce film.
Ah, il est extraordinaire, ça aussi, c'est à voir. Donc, on vous recommande de pourquoi pas profiter de ces moment de vérité et de réconciliation pour nous connecter à des œuvres marquantes qui vont justement dans le sens souhaité d'une réflexion et de recueillement plutôt que de grands sparages publics.
Je me pose une
belle sélection.
Je pose quand même des questions sur le titre de Rumble, l'influence amérindienne sur la musique populaire. Je sais que le titre original en anglais, c'est The Indians Who Rock the World. Ils disent Indians, mais je pense qu'ici, ça fait graisser des dents quand on dit Indien, genre en parlant des Autochtones. Là, mais même déjà amérindien, c'est un peu controversé dans notre milieu. Là.
Oui, en fait, amérindien, ça provient du jargon anthropologique. Hein? Parce que justement, ils voulaient distinguer dans les écrits universitaires qu'il n'y ait pas de confusion entre les Indiens des Indes, les vrais Indiens, comme disait William Commandant, les vrais Indiens et les populations autochtones, les Premières Nations des Amériques. Donc, ils ont forgé ce mot qui est un peu une sorte de barbarisme universitaire, néologisme, et qui est un peu... Ouais, effectivement, ça fait un peu étrange, amérindien. Mais maintenant, il paraît que les Indiens, parce que le mot indien pour aux Indes, c'est aussi un héritage colonial. Ouais. Parce que c'est le fleuve Indus qui traverse l'Inde. Alors ça, celui-là, c'est un mot vraiment autochtone. Mais là-bas, les gens ne sont jamais appelés eux-mêmes Indians, c'est les Britanniques qui les ont nommés comme ça. Alors donc, apparemment, ils sont en train de reprendre un mot originaire de leur pays pour se nommer eux-mêmes. Ça va avec le nationalisme du gouvernement maudit. Et là, j'ai rigolé en entendant ça. J'ai dit, bon, enfin, on va pouvoir s'appeler Indien, puis personne ne va pour pouvoir dire que ça crée de la confusion. Alors, à suivre, à voir. Mais Rumble est très intéressant.
Oui, c'est vraiment une belle sélection de films. Ça fait que c'est jusqu'à quand que c'est sur Tout.tv?
Je pense que ça va être pour un mois, je pense. C'est là maintenant. Il doit en avoir encore pour 3 semaines, j'imagine, de cette sélection disponible là, pour ceux qui veulent aller sur Tout.tv. Et voilà, c'est une façon de rattraper présence autochtone pour ceux qui ont manqué soit la dernière année, il y a cinq films de 2023, ou trois autres films qui ont été présentés dans les éditions précédentes. Donc, une belle occasion de se connecter aux réalités autochtones au travers des produits de souveraineté narrative, justement.
Puis j'ai vu qu'on peut juste chercher dans la recherche, là. Si vous cherchez présence autochtone, ça va être affiché déjà.
Ah, cool.
Ouais. Okay. Il n'y aura pas de trop de difficulté à chercher ça. Tu as juste à taper puis on va trouver toute la sélection.
Alors, ça tape en plein dans le mille parce que là, il est 13h26. Il va falloir libérer notre invité. Alors, ben oui. Merci Widia d'avoir été là. Et voilà, donc, femme occupée, puisqu'on a commencé une demi-heure en retard. Une demi-heure plus tard que d'habitude, à cause que tu avais d'autres obligations juste avant. Je ne sais pas où tu trouves le temps de manger, mais en tout cas.
Alors, merci pour votre flexibilité. Oui. Merci de m'avoir invité. Là. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce midi.
Je te m'égouette.
Et mercredi prochain à midi, on revient. Le podcast Rue Adadegen est là pour la saison, une nouvelle saison, en lien avec les leaders culturels, le monde artistique, les activistes du renouveau identitaire et culturel des Premières Nations. Alors, de toutes les Amériques, hein, des invités du Québec, mais parfois de plus loin encore. Alors, restez « stay tuned », comme on dit. Et puis, tapons dans le mille, comme aurait dit Alexandre, sur son clavier.
OK. Ben, tchachouk, Kskina, on se revoit la semaine prochaine.
Bye. Merci. Bye.